superstar. What do you want to be?
Marceau le matin.
9h32 minutes. Vous êtes sur les ondes de Boulevard 101. Mon nom c'est Marceau. Son nom lui c'est Jeff Fortin. Max Larouche qui nous a quittés parce qu'il doit se préparer pour son show qui commence à 10h pour le point de Max. Vous avez quelque chose à nous dire par rapport aux commentaires qu'on a en ondes où il se passe quoi que ce soit sur la route? 418-971-1021. 418-971-1021. Jusqu'à maintenant, comment ça se passe?
Ça se passe très bien. Tout est au vert. Ça roule.
Ça roule à Monaco.
Yeah.
Ça roule. Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Puis quand ça va bien, ben on s'en va jaser avec Nicolas Gagnon, qui est directeur Québec pour la Fédération canadienne des contribuables. Salut, Nick.
Salut, ça va super bien?
Eh oui. Hey, j'ai des questions. T'as-tu déjà fait un job dans la vie où tu étais payé avec des bonus?
Non. Ben, je veux dire, où est-ce que j'avais des bonus à la fin de l'année ou quand j'avais juste des bonus comme.
Des bonus à la fin de l'année, ouais.
Oui, j'ai travaillé dans le milieu bancaire pendant quelques années. Là. J'ai donc eu droit à ça pendant quelques temps. Là, à cette heure, c'est plus tout à fait la même réalité. Mais
j'ai
comme l'impression de savoir où tu t'en vas.
Les avais-tu tout le temps, les bonus?
Ben oui, c'est variable, mais c'est en fonction de la performance. Il y a des années que je performais plus que d'autres. Je dis ça de même, mais je pense savoir où tu t'en vas avec cette déclaration-là. Okay.
Mais si tu avais ton bonus, est-ce que c'est, mettons, tes bonus étaient fixés sur un travail adéquat puis une belle attitude?
Ben c'est sûr que c'était peut-être retenu comme critère, mais il n'y avait pas juste ça. Il y avait comme les ventes, il y avait la ponctualité, il y avait le rendement comme tel. Ça dépendait autant des différents postes que j'ai faits, puis comment est-ce que la rémunération était octroyée. Mais au final, c'était pas juste le sourire et la bonne attitude. Mettons les choses au clair.
OK, parce que dans l'entourage de Mark Carney, ça a l'air à fonctionner comme ça. Si tu fais un travail qu'on juge adéquat, puis c'est une belle attitude, ben tu vas te mériter un bonus. Total tout, dans son entourage, les gens ont touché un 2,9 millions de dollars l'an passé. On les a félicités d'avoir effectué un travail adéquat et d'avoir une belle attitude au boulot. Ça représente entre 25 et 32 000 $, je te dirais à peu près, les bonus pour les fonctionnaires. Ils sont tellement difficiles à atteindre, ces bonus-là, que c'est 98,1 des cadres qui ont eu droit à leur prime.
Exact. Puis on parle de primes qui peuvent aller jusqu'à 10% de leur salaire. Là. C'est quand même pas rien. Puis c'est pas mal la très grande majorité des employés ou des fonctionnaires qui sont au bureau du conseil privé. Fait que c'est pas y a rien de nouveau là. C'est sûr que ça nous surprend de voir c'est quoi les critères d'évaluation pour donner des bonus. Dans ce cas-ci, comme tu l'as mentionné, c'est avoir une belle attitude puis avoir un travail adéquat. Je sais ce que ça veut dire adéquat, c'est que leur bureau est propre. Là. C'est ça. On ne sait pas exactement c'est quoi leur indice de performance, mais c'est la même chose qui se passe dans à peu près toute la haute fonction publique fédérale à chaque année. Puis c'est autant la réalité au bureau du conseil privé que dans d'autres départements du gouvernement fédéral. Puis je tiens à rappeler qu'il n'y a pas juste les hauts fonctionnaires qui vont profiter d'une belle prime cette année sans avoir nécessairement des performances très élevées. Il y a aussi tous les députés qui vont avoir une augmentation de salaire le 1er avril prochain. Il y a Mary Simon, la gouverneure générale, dont on a parlé il y a quelques temps, qui a une augmentation de salaire. Donc, comme quoi, à Ottawa, tu n'as pas besoin d'avoir des belles performances pour avoir une augmentation de salaire payée par les contribuables.
La question qui tue, Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Il y a 580 patrons total chez Services publics et Approvisionnement Canada. OK? 580 patrons qui travaillent là. Il y en a combien qui ont obtenu leur bonus de performance? Sur 580.
Je vais faire un hard guess parce que généralement, là, c'est comme plus de 98% qui retiennent. Fait que, je veux dire, sur 580, je pense qu'il y en a 579 qui ont reçu leur augmentation, leur bonus. Ça se peut-tu?
C'est exactement ça.
Ouais.
580 patrons. 580 patrons, il y en a juste un qui n'a pas eu son bonus de performance. Ça a l'air à. On me dit que cette branche-là du gouvernement, ça vire en tabarouette. C'est hyper performant. Les gars et les filles qui travaillent là en donnent pas mal plus que ce qui sont payés.
Ben oui, déjà, c'est assez surprenant qu'il y en ait autant qui ont touché leur prime, mais ce qui est le plus de surprenant, c'est le gars ou la femme qui a pas reçu sa récompense. Je me demande qu'est-ce qu'elle a pu faire pour pas l'obtenir. Puis j'imagine que ça va être une question du genre, ben, la personne a été embauchée à la fin de l'année, donc elle pouvait pas se qualifier pour le bonus de performance. Je suis persuadé que ça va être une histoire de même, parce que sinon elle l'aurait eu quand même. Mais oui, je veux dire, dites-moi si on atteint les objectifs, puis on verra, mais dans le cas de la plupart des départements comme services publics et approvisionnement et autres, je suis désolé, mais les voyants ne sont pas nécessairement ouverts quand on regarde la performance année en année, mais on obtient les bonus pareils.
On change complètement de sujet. À la Chambre des communes, il y a un député qui a refusé son augmentation de salaire.
Oui, ben, puis refuser, c'est une façon de voir les choses parce qu'en théorie, les députés peuvent pas vraiment refuser leur augmentation de salaire. C'est un peu comme à l'Assemblée nationale, on se souvient, il y a à peu près 2 ans, quand il y a eu toute l'histoire de l'augmentation de salaire de 30% pour les députés. Il y a certains qui ont refusé, notamment ceux au Parti québécois puis à Québec solidaire, mais ils ont quand même dû recevoir le salaire. C'est juste qu'ils doivent le donner sous forme de don, en fait, pour compenser le fait qu'ils n'acceptent pas l'augmentation de salaire. Mais à la Chambre des communes, ça a chose. Comme je disais tantôt, il y a une augmentation de salaire qui est prévue pour les 343 députés le 1er avril prochain. C'est environ 4,2%. Puis, dans les derniers jours, avec grande surprise, en fait, on a appris que Mike Dawson, qui est un député conservateur, donc à l'opposition officielle qui représente, qui est au Nouveau-Brunswick, et qui a dit que lui, il a publié une lettre ouverte à l'intention de la Chambre des communes pour dire qu'il allait refuser son augmentation de salaire en guise de solidarité envers les familles qui en arrachent, qui ont la difficulté à payer leur hypothèque, puis leur loyer, puis leur épicerie, tout ça. Et bref, il a fait ce coup d'éclat-là. En espérant peut-être avoir l'appui des autres députés de sa formation politique. Malheureusement, c'est pas du tout ça qui s'est produit. C'est-à-dire qu'il y a, c'est plus le contraire. Il s'est fait rabrouer solidement par l'ensemble de la députation. Et il y a beaucoup de gens qui disaient, ben non, mais c'est parce que de toute manière, tu peux pas refuser ton augmentation de salaire, qui va être quand même de 8 800 $ de plus qui va être empoché pour un, ne serait-ce que pour un salaire de député d'arrière-ban. Là. Donc, un député qui a pas de responsabilité parlementaire spécifique va avoir une augmentation de 8 800 $, mais lui il voulait la refuser. Sauf que voilà, il peut pas la refuser tant qu'il n'y a pas un projet de loi qui est fait en ce sens. Mais pour ça, il faudrait que ça soit appuyé par au moins la majorité des autres personnes à la Chambre des communes, ce qui est loin d'être gagné d'avance. Donc c'est ça. C'est comme quoi est-ce que sur les 343 députés, soyez rassurés, il y en a au moins un. D'habitude, on a tendance à généraliser et à dire que tous les politiciens sont pareils, mais là, on peut dire qu'il y en a au moins un qui refuse son augmentation de salaire. Mais malheureusement, on n'est pas sur le point d'avoir un éveil là, de la majorité des élus pour faire preuve d'une solidarité, que ne serait-ce que symbolique, envers les contribuables, parce que, comme je le dis, on augmente les salaires, on n'a pas d'évaluation de performance, on n'a pas de consultation, il n'y a rien qui est fait à ce niveau-là. Puis, ben, c'est quand même une augmentation de salaire qui s'ajoute à toutes celles qui ont déjà été cumulées au cours des dernières années pour un député d'arrière-ban qui fait quand même 5 fois le salaire du Canadien moyen au pays qui va payer les salaires des élus. Donc, tu sais, des fois, être connecté à la réalité, là, ça peut être un bon coup politique, mais malheureusement, il n'y en a rien qu'un qui a compris le message là-dedans à la Chambre des communes.
Ouais, puis rien n'empêche de donner son 8 000 $ à une œuvre de charité. On parle de la taxe d'assises maintenant, la taxe d'assises fédérale sur l'alcool qui va augmenter le 1er avril. L'alcool va augmenter, Jeff. Ça, c'est une mauvaise nouvelle.
C'est une très mauvaise nouvelle parce que, hey, on nous gâche notre beau bonheur qu'on a besoin en ces temps difficiles.
Oui, ben, c'est tout ce qui nous reste, non?
Tu comprendras que je faisais la même joke, là. Non, ben, je pense que si on a augmenté des taxes, Nick, ça va toujours être sur les produits, justement, futiles à la consommation, comme le tabac et l'alcool. Là.
Exactement. C'est-à-dire que c'est toujours un peu... particulier de défendre cette ligne-là parce que, bien sûr, je m'oppose à toute augmentation de taxes ou nouvelle création de taxes, mais il y a personne qui va dire, je suis contre le fait que les taxes augmentent sur les cigarettes. C'est pas, il y a personne qui va faire de sortie publique là-dessus. Sur l'alcool, par exemple, la différence, c'est parce que ça affecte pas juste le consommateur, ça affecte aussi les restaurateurs, ça affecte les tenanciers de bar, ça affecte l'industrie de l'alcool comme telle. Puis oui, à chaque 1er avril, ben, il y a pas juste le salaire des députés à la Chambre des communes qui augmente, il y a aussi les taxes, la taxe d'assises sur l'alcool, qui est une taxe d'assises qui a été créée en 2017, du moins, elle est devenue une taxe qu'on appelle escalateur, c'est-à-dire qu'elle augmente de manière automatique en fonction de l'inflation qui est observée l'année précédente, dans le dernier trimestre de l'année précédente, puis on va augmenter en conséquence cette taxe-là. Puis là, ben, comme de fait, la taxe va augmenter de 2% le 1er avril. Ça a l'air de rien, mais pour l'ensemble des consommateurs, l'ensemble des Canadiens, ça va représenter environ 41 millions de dollars de plus qu'on va payer en taxe sur l'alcool pour l'année 2026-2027. Puis depuis qu'elle a été mise en place, du moins cette taxe escalateur-là, ben, elle a quand même coûté 1,6 milliard de dollars aux contribuables, ne serait-ce qu'en allant chercher cette augmentation de taxes annuelles. Puis il n'y a pas juste, les consommateurs comme vous et moi qui aiment me s'ouvrir une petite frite à la fin de la journée puis qui disent « Ah, ça va coûter plus cher ». Il y a carrément, là, entre autres, les travailleurs syndiqués du secteur brassicole qui, eux autres, ont même averti que cette hausse-là, combinée, il faut le rappeler, au contexte de la guerre tarifaire, ben, ça va affecter leur industrie inévitablement. Puis c'est un poids supplémentaire, comme je dis, qui n'est pas juste pour le consommateur, mais aussi pour le producteur, dans un contexte qui est tout sauf favorable. Donc, nous, c'est un rappel qu'on fait parce que, bien évidemment, on veut pas que cette taxe-là augmente. On pense que ce 41 millions de dollars-là pourrait être simplement coupé ailleurs dans les dépenses fédérales, puis ça pourrait être fortement compensé. Mais malheureusement, le gouvernement fédéral essaie de nous en passer une petite vite, puis il y a pas assez de gens qui sont au courant de cette situation-là, malheureusement. Mais on va continuer à maintenir la pression. On va espérer faire des pieds et des mains pour que le gouvernement comprenne que c'est un mécanisme qui est inacceptable à la fin de la journée.
À chaque fois qu'il y a une hausse sur le coût de l'alcool, pour moi, c'est une très mauvaise nouvelle. Mais comme je prends juste de la Coors Light, il n'y en a pas tant que ça de l'alcool dedans, fait que je devrais pas être trop hypothéqué. Budget 2026, avant ou après la course au leadership, à quoi on doit s'attendre quand on est un contribuable?
C'est une bonne question parce que là, j'ai vu passer en fin de semaine, c'est la presse canadienne qui nous rapportait là ce samedi que finalement, ben, on va avoir un budget bientôt au Québec, comme c'est le cas à chaque année. Sauf qu'on ne sait pas si on va l'avoir avant la fin de la course à la chefferie qui devrait finir le 12 avril prochain ou après. Dans tous les cas, c'est quand même assez tardif. Ne serait-ce que d'habitude, c'est livré avant le 31 mars. Puis là, on comprend que la raison pour laquelle ça pourrait être livré d'ici le 12 avril ou après, c'est parce qu'on laisserait les candidats à la chefferie, donc Bernard Drainville et Mme Fréchette, avoir leur opinion sur le budget, puis d'amener des points qui sont peut-être des façons de faire, peut-être pas des nananes électoraux, là, mais là, qui leur permettraient d'ajouter, en fait, quelques-unes de leurs idées dans le budget comme tel pour justement que ça reflète un peu leur gouvernance qui va suivre. Sauf que je trouve ça ridicule pour plusieurs raisons. Là. À la fin de la journée, c'est un budget qui est supposé être fait avec rigueur, là. Comme Éric Girard l'a dit, il est supposé aussi avoir un plan pour le retour à l'équilibre budgétaire. Donc, si on se base sur les budgets qui nous ont été présentés dans les deux dernières années, qui étaient hautement déficitaires, ce budget-ci devrait pas non plus être extrêmement loin de ce qu'on a vu auparavant. On s'attend à un déficit aux alentours de 9 ou 10 milliards, malgré les coupures qui ont pu être faites. Puis là, on dirait aux aspirants chefs, ajoutez vos idées là-dedans. Vous allez pouvoir quand même, profiter de cette opportunité-là pour essayer de rejoindre l'électorat, essayer de rejoindre les contribuables, mais à la fin, ça pourrait être fortement dépensier, que ce soit des promesses d'investissement, des promesses d'infrastructure ou des baisses de taxes et d'impôts. Nous, ce qu'on espère en tant que contribuables, c'est qu'il va y avoir bel et bien des baisses d'impôts, mais tout aussi avoir des baisses de dépenses également. Pour l'instant, au gouvernement, on a fait des petits efforts ici et là, des coupures dans la fonction publique, mais c'est très, très limité. Mais il n'en reste qu'à la fin de la journée, je m'excuse, mais un budget comme ça ne devrait pas être soumis à autant de partisanerie. D'un, que tous les budgets sont partisans parce qu'ils sont livrés par un gouvernement, on s'entend. Mais là, qu'on laisse en plus des candidats dans une course à la chefferie s'immiscer dans ce processus-là, je pense que ça va un petit peu trop loin, surtout que ça leur laisserait comme de la marge de manœuvre que d'autres élus, d'autres ministres présentement en activité n'auraient pas, en fait. Donc, c'est un drôle de traitement favorable.
Effectivement, puis c'est pas la population qui a choisi que ça allait être Christine Fréchette ou encore Bernard Drainville, le premier ministre. Tu comprends? Ça appartient à l'ère Legault de voir que Fréchette pourrait rajouter sa touche ou Drainville pourrait rajouter sa touche. J'ai un petit malaise parce qu'ils n'ont pas été élus comme premier ministre du Québec, les deux.
Non, effectivement, je pense que c'est peut-être l'argument que je peux donner en la faveur de ce petit processus-là, c'est parce qu'à la fin de la journée, l'héritage de François Legault en termes de finances publiques, soyons honnêtes, là, c'est pas tout à fait reluisant, c'est pas quelque chose que tu veux nécessairement porter en tant que futur premier ministre. Que quelqu'un comme PSPP ou Charles Millard ou Éric Duhaime ou Ruba Gazal à l'opposition disent « moi, je suis prêt à prendre la relève », c'est différent parce qu'on n'endosse pas, en fait, les décisions précédente. Mais dans le cas de Drainville et de Fréchette, ben, ils se trouvent quand même à endosser pas mal l'héritage de François Legault. Donc, c'est comme leur dire, écoutez, ben oui, vous allez devoir prendre sur vos épaules le legs de François Legault qui est tout sauf intéressant, mais au moins vous pourrez acheter quelques-unes de vos idées qui vont vous permettre de remonter la pente dans le cas d'une élection qui pourrait être déclenchée soit de manière anticipée, soit au plus tard cet automne. Mais dans tous les cas, il faut que ce soit un budget responsable. Puis tu sais, pour venir à ce que Éric Girard disait, là, il va nous présenter un plan pour le retour à l'équilibre budgétaire. Pour moi, ça sonne un peu comme l'année de la marmotte, là, ou le budget de la marmotte, parce que on entend ça depuis quand même 2 ans à répétition, et à chaque fois, on a un déficit plus important qui nous est livré. Donc, j'espère que c'est pas ça là, qui va arriver en mars ou en avril prochain.
Salut, mon ami. Bonne semaine.
Toujours un plaisir, à bientôt.
Au revoir, Nicolas Gagnon, directeur Québec pour la Fédération canadienne des contribuables qui était avec nous. Son podcast va être disponible dans quelques minutes sur blvd.fm ou encore sur l'application Boulevard. C'est pas déjà fait, vous pouvez vous la télécharger sans aucun problème. Ça coûte gratis. Il est 9h46, on va faire une courte pause juste avant pour les gens qui voudraient en savoir plus sur la Fédération canadienne des contribuables. C'est contribuable avec un S.ca. Boulevard 102.1.